Donc, ma modeste exposé centrée sur cette question de gouvernance et de citoyenneté active. Dans un climat de conflit, dans un climat de guerre, d'autant plus que la République démocratique du Congo connaît depuis 1990 un mouvement d'insécurité, d'instabilité.
Et que tu es au cœur.
Oui. Donc,
quand vous dites que vous allez à l'est,
ouais.
À l'est du pays.
Oui, mais donc c'est ça. Et toute cette situation est partie de l'est du pays, principalement au Kivu, où nous travaillons, où moi personnellement je travaille avec des communautés paysannes et des groupes de jeunes, surtout en milieu rural. Voilà, donc toute cette situation-là a perduré jusqu'à aujourd'hui, en dépit de l'organisation des élections qui ont mis fin à 32 ans des régimes de dictature du fait président Mobutu, et bientôt 11 ans des régimes de Kabila père et fils, ce qui n'arrange pas forcément la situation, car à l'issue du référendum de 2006 qui a précédé les élections, tout ce qui a été dit, tout ce qu'on tient de la Constitution, tout l'arsenal des lois qui sont actuellement disponibles n'arrange rien. Et donc, on se trouve dans une situation telle que même nos élus se sont transformés en bradeurs des mandats ou en prostituées des mandats que nous leur avons confiés. Donc, ceux qui demandent forcément un engagement citoyen, et là encore, il y a un défi. Parce que toute la dynamique de la société civile, comme Lili l'a dit au Madagascar, au Congo, c'est la même réalité. Donc, on ne voit pas forcément sur qui compter pour faire le contrepoids avec le pouvoir. Donc, les acteurs de la société civile restent actifs jusqu'au jour où ils sont apprivoisés et captés par le pouvoir. Ils accèdent à des postes et c'est tout. Donc, le grand défi, c'est ça, c'est de savoir, dans cette situation qui perdure, dans cette situation où la population n'est pas suffisamment informée, que faire et sur qui compter? C'est ça la grande question pour le Congo. Ça m'envoie à essayer de définir une stratégie. Et pour moi, une stratégie serait d'informer les populations, mais y aller avec une unité opérationnelle plus réduite. C'est-à-dire que par exemple au niveau des territoires ou des communes, on peut arriver à réfléchir avec les paysans et essayer de provoquer cette culture de compte rendu des mandats tel que l'a dit Claude. Donc, alerter, c'est très important. Surtout que nous tendons vers des élections prochaines, donc la Constitution vient d'être révisée. À 10 mois des élections, à 10 mois de la fin du mandat, la Constitution est révisée. Donc, il n'importe même pas qu'on se pose la question pourquoi, parce que c'est une stratégie de positionnement politique. Et ceux qui ont cautionné ça, ce sont les personnes que nous avons élues. Donc, les députés et les sénateurs, ils ont cautionné ça. Donc, une stratégie de se positionner davantage avec l'idée des élections présidentielles à un seul tour. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Et donc, tout ce qu'on doit faire maintenant, comme acteur de la société civile, c'est de se choisir, moi personnellement, d'essayer d'identifier dans mon espace de dialogue, partout où je suis actif, des personnes avec lesquelles on peut déjà amorcer une démarche de compte-rendu du mandat. Donc, de compte-rendu du mandat. Donc, moi, dans mon village, je sais qu'il y a autant de paysans qui ont été tels députés. Avant qu'ils ne se représentent, parce qu'ils commencent déjà à distribuer des cadeaux. Mais il faut qu'on ait déjà qui aide les paysans à leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait de tout ce qu'ils ont promis. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important et qui est susceptible d'être fait même à taille réduite, ça ne requiert pas beaucoup de moyens. Il suffit qu'on s'identifie comme acteur, et là, ça demande un travail de réseautage, qu'on sache qui fait quoi, il est où, et à quoi il peut être utile dans cet engagement. Et là, ça peut nous aider à pouvoir poser de telles questions aux députés, et c'est le moment. Sinon, tout est parti là. Voilà donc, en bref, là je me suis résumé sur tout ce qui constitue là. Je vous dispense tout ce qui a comme mécanisme parce que, une fois qu'on arrive à ça, il y a des exigences. Les principes simples de gouvernance que tout le monde connaît, donc tout ce qui est d'évolution, de concentration, et consorts, de la décentralisation, parce que c'est un des outils qu'il nous faut au Congo pour effectivement avoir des espaces pour poser ce genre de questions. Et ça, c'est des espaces qu'il faut créer avec les communautés, des espaces d'écoute, des espaces de cadres de consultation populaire. Ça demande aussi que l'on ait accès aux médias, ce qui n'est pas automatique, parce que maintenant tous les médias sont confisqués, si pas instrumentalisés, parce que même chaque député s'est créé une radio juste pour sa campagne. Donc vous trouvez que là aussi, il faut que les paysans aient des espaces pour faire passer leurs messages. Et donc ça demande aussi qu'on ait des médias citoyens, des vrais médias citoyens, donc des radios citoyennes, qui parlent effectivement, qui sont indépendantes et une dynamique civile, des sociétés civiles unies, fortes, partisanes, déjà conscienciées, qui ont le souci du mieux-être de la communauté. Donc, c'est en gros le défi et en termes de stratégie, c'est ce que je peux dire par rapport à la République démocratique du Congo. Et ceux qui sont le plus instrumentalisés dans toute cette dynamique, c'est surtout des jeunes, des universités, parce qu'on va profiter des universités, et c'est chaque député qui a un club d'amis dans chaque université, c'est un ministre quand il arrive dans la ville de Momaya, tout de suite là de Calico, club des amis de tel, club des amis de tel. Et donc, tout ça c'est une matière à réflexion qui ne demande pas qu'on attende, qu'on n'attende pas longtemps, mais qu'on y aille tout de suite là, en identifiant dans les communautés, dans les associations, parce qu'il y en a quand même qui ont ce souci, de pouvoir réfléchir à fond sur ce genre de questions avec les communautés de base. Voilà.
J'aimerais quand même, pour être concret, pour que tu nous parles de ton expérience de ferme, de réinsertion des jeunes pris dans le conflit, un peu plus précisément.
En termes d'engagement citoyen, je pense que cette question, c'est plutôt beaucoup plus une question, une alternative d'encadrement des jeunes, hein, d'encadrement des jeunes qui ont été enrôlés ou qui étaient des ex-enfants soldats. Mais en termes d'engagement citoyen, il y a toutes ces genres de questions peuvent tourner autour de petites actions. Hein. Donc, on peut y répondre sur le terrain. Donc, trouver d'abord une alternative d'emploi pour ces jeunes, mais aussi en profiter pour faire passer ce type de message. Donc, je ne sais pas s'il faut parler de toute l'expérience de la ferme école agroécologique maintenant, parce que c'est une longue histoire, mais qui trouve sa légitimité dans les conséquences des guerres, dans les conséquences de l'instrumentalisation des jeunes, et que donc, une fois qu'on a des espaces d'écoute, de consultation populaire où les jeunes sont présents, c'est une occasion de faire passer ce genre de message. Donc vraiment,
je pense que pour avoir une citoyenneté pleine et active, il faut aussi pouvoir se situer dans son autonomie, dans sa... Et donc votre exemple est bien fait accéder à des jeunes qui sortent du cadre de crise, à une capacité de vie pour être un véritable citoyen et après probablement...
Je suis tout à fait d'accord.
Ah oui, mais c'est important ça.
Je suis tout à fait d'accord et c'est pourquoi je parle d'identifier des acteurs. Parce que je sais qu'il y a des acteurs ou des associations qui sont dans le secteur de l'eau. À partir de l'eau, qu'est-ce qu'on peut échanger? C'est quoi on peut échanger par rapport à tout ce qu'agro à la population en matière de l'eau, par exemple. Et ça, ça renvoie à une question, par exemple, d'une bonne loi qui régit le secteur de l'eau. Quand on est dans le secteur agricole, donc c'est y aller avec des personnes qui sont dans des actions plus concrètes et autour desquelles on doit réfléchir, parce que pour le faire, on a besoin d'un arsenal de lois, des lois bien édictées, et qui permettent à ce que tout ce qu'on fait comme action aboutisse. Parce que moi, je ne saurais pas parler aux jeunes. C'est vrai, je l'ai dit aujourd'hui, il y a cette ferme agricole agroécologique, mais à quoi aboutirait ou comment est-ce qu'on aura des résultats plus durables s'il n'y a pas une loi qui favorise l'agriculture telle que nous la voulons, c'est-à-dire une agriculture propre, par exemple. Comment lutter contre tous ces pesticides si on ne réfléchit pas comment parler aux dirigeants, aux décideurs politiques des impacts négatif de tous ces pesticides. Donc, ce n'est pas de désaction. Donc,
je
ne saurais pas me limiter uniquement à la ferme écolaboration.
Non, mais justement, quand tu prends l'agroécologie et les pesticides, moi je crois que c'est les gens qui sont passent dans ton école qui seront les porteurs éventuels, qui seront éventuellement les porteurs d'une revendication pour une loi et pour tout ça. Ouais. C'est pas simplement des idées préalables, c'est l'expérience des gens, et c'est ça la démarche que l'on souhaite, c'est l'expérience des gens qui amène à formuler des changements qui les concernent peu, mais qui les concernent au-delà d'eux-mêmes.
Je crois qu'il y a aussi, le quotidien. Si je prends l'exemple des problèmes de l'eau dans la ville de Goma aujourd'hui, la ville de Goma, c'est une ville au bord du lac. L'unique solution, c'est l'eau du lac. Les services sont payés, donc les paysans, la population achète l'eau, mais le service n'est pas de qualité. Pendant que parmi les cinq chefs du chef de l'État, de son mandat qui finit bientôt, l'eau était à la vente. Et donc, au niveau d'un quartier, si on a une association qui est focalisée sur cette thématique, si on réfléchit, on amène les femmes, parce que c'est elles qui payent la corvée de l'eau. Que pensez-vous de cette problématique et ça ira jusque quand? Que pensez-vous de cette corvée et ça ira jusque quand? Je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des solutions et avoir ce que pensent les gens. Et c'est des petits espaces d'expression qui peuvent donner une issue et qui demandent dans l'ensemble d'être capitalisés, donc avec des acteurs qui se résolvent autour de thématiques pareilles. Et ça aide à avoir une vision plus active. Quoi.
Plein de questions.
Donc, je voulais demander, est-ce qu'il a déjà fini son exposé? Voilà. On peut s'engager dans le débat, parce que nous l'avons interdit en sachant déjà
les débats. C'est ça.
Oui, je crois que je me suis beaucoup résumé.
Et
je suis ouvert aux questions.
Il nous a dit quand même, voilà, vous voyez que je suis joli. Mais bon, il y a encore quelque chose à ajouter.
Non, je crois que s'il faut me résumer, pour me récapituler, donc les défis que nous avons à la République démocratique du Congo, c'est donc la population est victime de ses élites, ça c'est bien un, mais aussi tout ce qu'on reproche aux élites est observable dans les dynamiques de la société civile qui sont apprivoisées et happées par les pouvoirs. Et tous ceux qui militaient pour les causes des communautés oublient vite les combats pour lesquels ils militaient une fois au pouvoir. Donc, comment faire? C'est ça la grande question. Et parmi les stratégies que j'ai proposées, c'est de créer ce genre de petits espaces d'écoute, de consultation, pour le réfléchir avec les communautés autour des thématiques bien ciblées et qui permettent de réfléchir et agir conséquemment.
Des questions, des avis, des contestations.
Juste une remarque. Lorsque je pense à la situation de Matachi qui est actuellement dans une grave crise avec des arrestations, des emprisonnements, des enlèvements, alors il faut peut-être distinguer la situation au moment d'une crise politique et la situation où je dis normal. Parce que quand on a la on n'a pas réussi à se
Sonic, mais actuellement, comme la communauté internationale, l'organisation internationale a échoué, c'est la société civile et c'est la médiation nationale qui mène les choses et qui a été acceptée par l'ensemble de la communauté internationale, depuis les Nations Unies, que la santé est spéciale. Donc là, c'est sur la société civile.
Oui. Mais laquelle? Il faut bien la définir. Parce qu'au Congo, maintenant, nous avons, je crois, plus de 4 courants. Nous avons la société civile, force vive, donc qui est l'émanation des ONG de développement. Nous avons la société civile congolaise, qui a été créée par l'ex-questeur de l'Assemblée nationale, Bati Mbembo, qui vient maintenant de créer son parti politique. Donc, il a signé ça. Nous avons la nouvelle société congolaise. Hein? Et nous avons ce qu'ils appellent aussi la société, donc la société civile pour les élections. Donc une partie de la société civile force vive, de la dynamique des ONG qui vient d'être réprimée. Parce que ce matin j'ai reçu un email, on m'a envoyé un email pour le déjà du haut niveau qui conteste la prise de position du président de la coordination de la société civile au haut niveau. Et qui a soutenu la révision de la Constitution. Donc, vous voyez tout ça.
Oui, c'est pas mal. Mais à propos de ce que je dis là, pendant le processus que a mené le CCOC dont il a parlé, c'est pendant cette période que les gens et la communauté internationale ont réussi progressivement à faire la différence entre une société civile et des sociétés.
Oui.
Partisans,
oui.
Et des sociétés civiles qui restent vraiment en tant que société civile, oui. C'est-à-dire engagées politiquement au sens de la citoyenneté, c'est ça. Et donc les gens, et maintenant les gens vraiment font confiance à cette société civile qu'ils ont pu expérimenter pendant tout le processus.
Oui.
Oh, bonjour à tout le monde.
Déjà, ça c'est pour vous dire une expérience. C'est la première fois que j'assiste à un atelier. Ce que j'ai entendu parler à mes frères sénégalais, le Béguet mondial, tout ce qu'on a dit ici, pour la société civile, par rapport à vous aussi, le mandat et autres. Donc, je suis venu poser deux questions pour demander est-ce que. On peut dire développement sans pour autant produit. Est-ce qu'on peut dire développement sans pour autant parler de la politique? Est-ce que si la société civile, quand elle organise, s'est organisée pour se présenter à l'élection présidentielle, ça n'a rien à voir avec la société civile? Parce que tout ce que vous avez dit ici, ça existe dans le monde entier, particulièrement en Afrique. En Afrique, il y a pratiquement la discrimination, le viol et tout. Et sur M. le directeur de l'ONG de l'Inde, ce qu'il a dit ici pour les femmes. Actuellement, au Sénégal, il y a des femmes qui sont prêtes à prendre de relever des défis pour gérer les pays, pour que tout ce qui existe pour les politiciens et autres n'arrive pas ici. Donc, ma contribution. Sur ça, c'est venu poser des questions sur ce domaine. C'est la première fois, nous sommes une jeune association de 8 mois, et c'est la première fois qu'on nous a dit de venir et contribuer au forum. Et je sais que la sensibilisation du forum reste à la population. La population n'est pas au courant du forum. La médiatisation reste. Moi, j'ai conseillé les étrangers de tout le monde que je viens savoir. Tout ce que j'ai entendu ici, franchement, ça me donne la confiance. Et ce sera difficile, comme notre commandant nous a dit ça. Parce qu'après l'organisation de la société civile, il y a le politique et le européen. Comment trouver une solution pour ne pas accéder à cette crise, crise politique qui est animée par les politiciens et qui récupère la société civile. C'est la société civile qui fait le politique. La société civile fait. Nous, les ONG, les associations,
donc, je pense que c'est
crois que les exemples que nous avons eus à la fois de Madagascar, à la fois sur l'Inde, montrent qu'il est possible de ne pas tomber dans le travers de la société civile ou l'exploitation qui en est faite au Congo de cette notion de société civile, dans la mesure où ce sont des succursales des partis politiques. Hein, je crois que c'est possible, mais c'est souvent très délicat, souvent le chemin est étroit, hein, parce que on a toujours à voir, malgré tout, les uns et les autres, des affinités politiques, ça n'empêche pas, chaque individu peut avoir des affinités politiques, mais que le collectif garde le chemin pour dire non, non, c'est pas là, parce que voilà, on peut faire. On peut faire du développement de cette situation, on peut faire de la médiation, sans faire de politique partiale. On peut faire une politique de développement, sans faire de la politique dans le développement.
Moi, c'est.
Je justement, par rapport à ça, ce que disait Guillaume, c'est que c'est une très difficile, surtout quand on est engagé dans des situations de crise politique comme ça. Mais nous, ce qui nous a aidé, c'est qu'il y a eu un code de conduite à tous ceux qui adhèrent au CCOC. Et puis deuxièmement, dans ce code de conduite, et notamment ce que nous appelons le noyau dur du collectif, c'est qu'aucun d'entre nous ne devait à donner, chacun a donné sa parole, pour ne pas entrer dans aucune structure de la transition. Ça, c'était pour nous l'impact et qui a été respecté par la majorité du
Je pense qu'au niveau des populations, ce que nous vivons concrètement, les gens sont préoccupés par des problèmes purement économiques. Tout ce qui pourrait les aider à prendre en charge ponctuellement leurs problèmes quotidiens, peut-être on pourrait profiter de ces petites organisations pour les sensibiliser par rapport à la mobilisation citoyenne. Je pense que ça pourrait être la meilleure solution.
Oui, les gens sont immédiatement mais ils ont la capacité d'aller au-delà de leur quotidien pour imaginer des solutions collectives pour plus tard. Et ça, j'en suis persuadé, et par expérience.
On voit ce qui s'est passé en Tunisie. On avait l'impression que les gens se battaient pour pouvoir manger, c'est sûr. Mais il y avait une demande qui était beaucoup plus large.
C'était un changement, une prise en charge de ce changement. C'est pas une autre chose. Bon, allez, viens.
De ce point de vue aussi, c'est très important qu'il y ait articuler ce travail de coopération, de collaboration entre les organisations de la société civile chez nous et celles qui font le travail en France.
On va être obligé de conclure.
Oui, je veux dire, comme les limites qu'on a relayées, si vous allez sur l'adresse du site internet, vous aurez tous les communiqués et analyses qu'on a relayées. Donc,
bon, je crois qu'on va arrêter là. Donc,
servez-vous.
C'est vraiment ce qu'on appelle un débat. Un débat, il n'y a pas de conclusion. C'est un échange qui permet aux uns et aux autres, en fonction de leur situation, d'acquérir de l'expérience des autres, de les confronter, de partir. Voilà, c'est un peu ce qu'on essaie de faire dans notre réseau. On l'a fait un peu petit ce soir, pas forcément comme il faudrait continuer. Mais j'espère que ça nous a enrichi les uns et les autres. L'expérience des autres nous a enrichi par rapport aux situations que nous vivons ici, là, collectivement. Et bravo. Vous avez bien passé.